Bah, c'est une joie pour moi aussi de venir parmi nous, parmi vous, parmi nous, oui aussi, en tant que frère en Christ. Et parce qu'effectivement, nous avons fait déjà quelques aventures ensemble, notamment l'année dernière, le 15 octobre, quand on s'est réunis pour fêter ce qui semble bien être le début de notre courant, le protestantisme. Donc, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Et vous avez commencé tout à l'heure en parlant de la famille, et nous allons partager une histoire biblique sur la famille. La famille, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça peut être aussi la zone de conflit. Alors, avant de lire la Bible, ouvrons nos cœurs, nos intelligences à cette parole et peut-être laissons de côté tout ce qui peut encombrer nos oreilles pour vraiment accueillir cette parole. Je vais lire l'évangile de Luc au chapitre 15 et je commence avec le verset 11. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Et il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cette parabole, vous l'avez sûrement déjà entendue, vous l'avez sûrement entendue, et nous la connaissons généralement sous le titre « La parabole du fils prodigue ». En fait, ce n'est sûrement pas le titre des plus idéales, car il ne reflète qu'une petite partie de l'histoire, qui n'est pas, comme on l'a encore entendu ce matin, juste au sujet du plus jeune. Alors, l'histoire débute par le père. Le père est au centre. Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'ici, le père, dans cette histoire, représente en fait la figure de Dieu. Et ce père a deux enfants. Le plus jeune demande sa part d'héritage. Alors, même si la demande est faite un petit peu tôt, plutôt que l'usage, il en a, dans la loi israélite de l'époque, il a légitimement le droit, en tant que fils, à la part d'héritage qui lui est réservée. Alors, je ne sais pas si c'était un concept à la vogue en son temps, mais avec nos yeux du XXIe siècle, nous voyons bien qu'il cherche à gagner autre chose avec sa part d'héritage. Peut-être une chose bien plus importante que l'argent à ses yeux, la liberté. Cette revendication, bien sûr, nous la comprenons, surtout quand nous voyons à la fin comment le frère aîné tourne et comment il se conçoit, lui qui travaille toujours dans sa famille. Mais peut-être même, sans regarder maintenant ce que fait le fils aîné, nous avons tous soif et faim et le désir d'être libre. Alors, le père donne au plus jeune sa liberté. Il sait dans sa sagesse que malgré tout l'amour qu'il a pour ce fils, il ne peut à ce moment que le laisser partir. L'amour paternel, c'est peut-être ça, même si cela fait parfois mal. Je t'aime, alors je te laisse partir. Le père, avec une générosité absurde, donne à son fils ce qu'il veut, son argent et sa liberté. Il le fait comme ça, sans mise en garde, en toute confiance. Ainsi, Dieu, généreux, tellement généreux que ça nous paraît absurde, nous donne cette liberté, celle de vivre sous son regard ou loin, d'aimer ou de ne pas aimer. Le fils libéré a donc maintenant sa liberté et il en profite dans ses critères largement. Enfin, profiter. Nous pouvons dire qu'il fait ses expériences sans Dieu. Libéré du poids paternel, le fils part et il jouit de sa liberté. Il s'éloigne dans un lointain pays et gaspille son argent. Ainsi, il pense exister par lui-même. Il ne croit plus être celui qu'il est, un fils. Il veut être seulement un homme de la ville, un joyeux flambeur. Alors aussi longtemps qu'il a de l'argent, dans la société, il est bien établi, il a des amis, pas de soucis. Pourtant, quand l'argent vint à manquer, eh bien les amis font de même. Et la famine arrive, une famine matérielle, mais aussi une famine affective, une famine spirituelle. Et le fils commence à se sentir dans le besoin. Il n'abdique pas, il trouve un travail auprès d'un agriculteur du coin. Il est embauché pour nourrir les porcs. Alors, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, mais je puis vous assurer que pour un garçon juif de bonne famille, garder les porcs n'était pas le job en or. Mais il a faim. Et même la nourriture des cochons qu'il garde lui fait envie. Il s'en serait contenté, mais il ne trouve personne pour lui en donner. Drôle de constat. Il est traité plus durement que l'ouvrier là-bas qui est resté chez son père. Il est passé de fils à flambeur, d'ouvrier à esclave. Voilà le résultat de son chemin de liberté, peut-être mirage de liberté, en fait, mirage de liberté qui l'entraîne de fils à esclave, de fille à esclave. Et combien de fils et de filles bien-aimés de Dieu reçoivent ce trésor appelé la liberté et le gaspille. Oh, il n'y a pas besoin de regarder bien loin. Combien de fois, moi-même, je suis incapable de vivre une relation de liberté avec ce Dieu qui m'a créé libre et qui m'aime. Nous avons souvent tendance à mettre un peu Dieu de côté dans nos vies. Nous voulons vivre par nous-mêmes. Nous vivons comme des fils et des filles prodigues, esclaves de notre image, de nos succès, peut-être de notre argent et de cette liberté. Nous nous pensons affranchis quand nous vivons loin du Père, mais en fait, nous sommes des esclaves. Alors, le fils devenu esclave est dans son enclos à cochon, essayant de remplir son ventre vide. Quand il se retourne sur lui-même, nous dit le texte, il se retourne sur lui-même, c'est-à-dire il fait le point, il réfléchit. Et là, il va réaliser qui il est, d'où il vient et ce qu'il a perdu. Son retour sur lui-même lui montre que dans sa quête de liberté, il a raté la cible. Il sait qu'il est un fils, et ça, rien ne peut le modifier. Pourtant, il pense qu'il a perdu ce statut. Il se dit lui-même qu'il n'est plus digne d'être appelé fils. Cette introspection faite, il y a une voix qui s'ouvre devant lui. Il a envie de revenir à la maison du Père. Cela serait si bien. Il ne revendique même plus son statut de fils, mais il a faim et demande à être traité comme un ouvrier. Il revient en fils repenti. On peut se poser la question quand même ici d'évaluer la sincérité de son repentir, mais nous ne sommes pas là pour cela. Peut-être était-il vraiment désolé pour la douleur qu'il avait causée au Père. Peut-être il avait juste faim. En revanche, ce que nous ne pouvons pas enlever au fils cadet, c'est sa clairvoyance. Il est réaliste et tellement pertinent sur cette situation. La vérité lui saute aux yeux. Nous avons toutes et tous été créés pour être des filles et des fils libres du Dieu vivant. Hommes et femmes, nous avons été créés par Dieu à sa propre image. Et cela ne peut être changé pour rien au monde. Mais nous croyons parfois ne plus être dignes de ce statut de fils et fille du Dieu vivant. Alors revenons sur ce chemin vers la maison du Père et voyons ce qui se passe. Le fils décide donc de retourner chez lui. Et alors qu'il est encore loin, son Père le voit. Son Père le voit et court à l'extérieur de la maison. Oui, vous l'avez entendu, le vieil homme court. Et balayant toute dignité qui sied à un notable de ce temps, il se jette au cou de ce fils. Alors le fils cadet commence à débiter son discours préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Le père n'en écoute pas mot. Il ne dit pas « Mon petit gars, reviens, mais je vais remettre les points sur les i. » Non. Le père réclame des chaussures, une tunique et une bague. Alors là, il faut bien saisir ce qui se passe. Les esclaves allaient pieds nus, mais les fils portent des chaussures. Les esclaves portent des haillons, mais les filles et les fils portent des tuniques. Et la bague était le sceau de l'autorité du père sur la vie du fils. Parce que pour ce père-là, le fils est toujours resté un fils révolté, certes, mais en rien un esclave. Et il le dit avec ces mots, il était mort et maintenant il est en vie, il était perdu et maintenant il est retrouvé. Et la suite de l'histoire se termine par une grande fête, une fête. Je pense que c'est là qu'il faut trouver la bonne nouvelle de ce texte, la fête. Peut-être que parfois nous sommes devenus dans l'Église trop gâtés, trop usés. Nous avons chanté tellement de cantiques, écouté tellement de prédications que nous ne reconnaissons peut-être plus l'éclat, la splendeur et l'incroyable étonnement de tout cela. Parce que la bonne nouvelle est ici, dans la fête. La bonne nouvelle, c'est cela. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne puisse pas revenir chez lui. Il n'y a pas d'esclavage si profond. Il n'y a pas d'actes si odieux qui empêcheront Dieu d'accueillir cette fille, ce fils, chez lui, avec joie. Il n'y a personne hors de l'amour de Dieu. Si quelqu'un parmi nous sait ce que cela signifie d'être totalement vide spirituellement, si quelqu'un d'entre nous a connu, comme le fils cadet, les contrées lointaines de l'esclavagisme sous une forme ou une autre, et que vous êtes revenu dans la maison du Père comme le fils cadet, si quelqu'un peut chanter « J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. » Bravo. Bravo. Je pourrais même dire que pour celle-là ou celui-là, la prédication est quasi finie. Vous pourriez même aller prendre déjà le café. Personne ne part. Peut-être parce que vous êtes poli et que je suis invité. Peut-être que ça ne se fait pas de partir en plein milieu d'une prédication. Certainement aussi parce que vous savez, et nous l'avons encore entendu ce matin, que nous n'avons pas encore fini avec ce texte et que nous n'avons pas encore parlé du Fils aîné. Et que peut-être parfois nous sommes fils, filles, cadets, cadettes, mais aussi fils, filles, aînés. Et certainement que les fils cadets ont aussi besoin d'entendre ce qui se passe avec l'aîné. Petite confidence entre nous, j'éprouve pour ce fils aîné une tendresse infinie. Peut-être parce qu'il a le mauvais rôle de l'histoire, ou peut-être parce qu'au jeu de ressemblance, le fils aîné me ressemble plus. Alors, il n'est certes pas au premier degré des plus avenants. Il ne veut pas célébrer le retour de son frère. Il le rejette même et refuse le lien fraternel. « Ce fils est le tien, » dit-il à son père. Et ce frère qui ne l'est plus devient même l'objet de tous ses fantasmes. Il a gaspillé son argent avec les prostituées. Comment le sait-il? Parce que relisez la première partie du texte. On dit qu'il vit dans la débauche, mais il n'y a pas de prostituées. Mais ça, vous savez, les fils aînés le savent. Ils savent ces choses-là. Parce qu'en fait, l'aîné ne prend même pas la peine d'écouter ce cadet. Il ne veut même pas entendre, alors il s'imagine des choses. Il n'entend même pas la demande de pardon du garçon. Pour lui, ce frère est déjà condamné lorsqu'il a eu le culot de partir avec l'argent. Et voilà qui revient la bouche en cœur. Pourtant, dans cette histoire, et pour ce fils aîné, la pire des choses pour lui, c'est que lui-même, il s'est destitué de sa qualité de fils aîné pour devenir lui-même esclave de son père. En plus, lui, il n'a même pas goûté au plaisir de franchir les interdits. Et il dit à son père venu à sa rencontre, « Toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour toi. » Vous comprenez, finalement, par des histoires de vie différentes, les deux frères se sont retrouvés dans la même voie, sans issue. L'un est allé dans un pays lointain dépenser son argent et nourrir les porcs pour devenir un esclave. L'autre, il n'a même pas eu besoin de bouger de la maison pour devenir cela à domicile. Il est finalement lui aussi dans un pays tellement lointain, sombre, triste, gris, qu'il s'est créé lui-même cette sorte de pays duquel il est tellement difficile de revenir. Encore une fois, nous ne pouvons pas dire comment les choses se produisent. Il est peut-être aussi difficile pour les aînés que pour les cadets d'accepter simplement l'amour. Peut-être qu'une sœur, qu'un frère aîné imagine qu'il ou elle peut mériter l'amour du père et qu'il peut le mériter qu'en travaillant dur et en devenant esclaves eux aussi chez eux. Et bêtement, nous nous efforçons de gagner l'amour du père qui nous est déjà là, simplement, acquis. Nous nous obligeons à travailler comme des esclaves et transformons la maison du père, notre maison, en demeure triste et sombre. L'Église, le monde entier est la maison du Dieu vivant et nous nous en faisons de sordides esclaves. Non, nous avons été faits pour être libres, nous avons été créés pour être des fils et des filles du Dieu vivant. Nous avons été libérés par Jésus-Christ, mais nous nous faisons nous-mêmes esclaves, espérant nous concilier par nos efforts l'amour de Dieu. Alors que cet amour est là pour nous, un cadeau précieux porté par l'Esprit. Dans la vie, nous avons à travailler pour avoir ce que nous possédons. C'est vrai en tout. Il existe une seule exception à la règle. Ce n'est pas valable pour l'amour. Et ce n'est spécialement pas valable pour l'amour de Dieu. Alors, pour lever tout doute, le Père aime l'aîné, bien sûr. Et il fait la même chose que pour le cadet. Il sort de sa maison à sa rencontre et va vers lui pour le prier de rentrer chez lui, comme il l'avait fait avec le plus jeune. « Fils, lui dit-il, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Parfois, nous avons la tentation de penser que Dieu aime uniquement les grands pécheurs repentis. Ce n'est pas vrai. La bonne nouvelle est aussi ici, avec toutes nos fautes, avec toutes nos tentations de nous couper de nos sœurs et de nos frères, avec toutes nos capacités à faire de ce monde un lieu d'esclavage pour nous-mêmes et pour les autres. Dieu continue de nous aimer. Et il n'y a rien ni personne qui puisse arrêter Dieu de nous aimer. Dans une paroisse précédente, lors de séances de caté avec les jeunes, nous avions proposé une série de rencontres avec des paroissiens et des paroissiennes. Durant la première, Un homme avait témoigné de son passé difficile. Il était devenu esclave de la drogue. La rencontre avec l'Évangile lui avait permis de sortir de cette prison et d'être libéré par la parole. Les jeunes avaient été interloqués par le parcours de ce fils prodigue qui était allé dans les zones sombres de l'humanité et en était sorti, car il avait compris que le regard de Dieu l'établissait comme fils. Ça avait été une séance assez exceptionnelle pour les jeunes. Puis, lors de la deuxième séance, nous avions reçu Xavier. Xavier, instituteur de 50 ans, marié deux filles. Xavier avait rencontré un parcours de proximité avec Dieu. Élevé dans une famille croyante, il avait fait enfant l'éveil à la foi, le caté, les groupes de jeunes, et tout naturellement s'était engagé comme conseiller dans sa paroisse. Je voyais les jeunes un peu interloqués et ils restaient sur leur faim. Xavier était un bel exemple de fidélité joyeuse de fils aîné. Pour un peu, les jeunes étaient déçus que Xavier ne raconte pas le gros truc à se faire pardonner. Non, rien, un itinéraire de foi tout naturel. Tout cela pour dire que chacune, chacun parcourt son propre chemin avec Dieu. Et qu'à ses yeux, une conversion radicale n'a pas plus de valeur aux yeux de Dieu qu'une fidélité à Dieu depuis le sein de sa mère. Pour revenir à la parabole de Jésus, le texte ne dit pas ce qui se passe à la fin. Si le frère aîné a surpassé son blocage et s'est rendu à la fête, l'histoire ne le dit pas. Elle reste ouverte. Elle est, en ce sens, incomplète. Peut-être. Peut-être parce que c'est à nous, chacune et chacun, dans notre propre histoire, c'est à nous de la compléter. C'est à nous d'écrire le happy end quand nous décidons de laisser notre fierté de côté et acceptons l'amour du Père, de notre Dieu, et décidons de nous rendre à la fête. Alors au début de ce message, je vous disais qu'on appelait cette parabole la parabole du fils prodigue. Appelons-la maintenant, la parabole du Père qui attend. Car finalement, tout au long de cette histoire, il y a un Père qui attend. Qui attend un fils bien-aimé à la maison. Dieu, notre Père, nous attend, nous, ses filles et ses fils bien-aimés. Et là, c'est à nous de décider si nous rejoignons la fête. Pour moi, c'est oui. Amen.